Théologie biblique, 29 mai 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Demande-nous à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame, notre Saint-Joseph.
Priez-vous.
Saint-Jean.
Priez-vous.
Nous allons continuer l'histoire de Joseph en essayant de comprendre cette bénédiction particulière sur Joseph. Vous disiez le médiateur, c'est ça qu'il y a de particulier dans Joseph. Son rôle prophétique, il est lié à la prophétie d'une façon très étonnante. Dès sa jeunesse, il est lié aux songes. C'est pas étonnant qu'on retrouve les songes lorsqu'on parle de Saint Joseph. Hein. C'est quand même très curieux ça. Voir qu'on retrouve ce lien. Et alors, les songes, évidemment, ça implique l'herméneutique, encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mais ici, c'est une herméneutique divine. Il s'agit d'interpréter les songes. Les songes par eux-mêmes n'ont pas de signification directe, parce que c'est de l'ordre de l'imaginaire. C'est bien lié à l'intelligence, mais c'est de l'ordre de l'imaginaire. Donc il y a besoin d'une véritable herméneutique. Et nous voyons qu'un des aspects, c'est presque l'aspect principal de Joseph, parce que c'est grâce aux songes qu'il sort de toutes les mauvaises, du moins c'est grâce aux interprétations divines des songes que Joseph émerge chaque fois d'une situation impossible. Donc cette interprétation des songes va permettre à Joseph de se sauver. Alors, nous sommes maintenant chapitre 41, je crois, sur le songe par rapport au Pharaon. C'est la chose principale, parce qu'il y a aussi, ce serait intéressant à regarder, comme toujours quand il s'agit d'un mystère de médiation, on voit que les médiations sont différentes. Il y a des niveaux différents de médiation. La médiation à l'égard des officiers du Pharaon, c'est pas tout à fait la même que la médiation à l'égard du Pharaon. On monte des étages successifs, hein. On voit très très bien. Or, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici qu'il se tenait près du Nil, et voici que du Nil montaient 7 vaches belles d'aspect et grasses de chair. Oui, c'est les vaches qui interviennent dans l'écriture, c'est quand même très important. Je crois que c'est la première fois que de fait on les voit, n'est-ce pas ? Qui se mirent à paître dans les joncs. Et voici que 7 autres vaches montées du Nil après elles, laides d'aspect et maigres de chair. Et elles se tinrent à côté des autres vaches sur la rive du Nil. Et les vaches laides d'aspect et maigres de chair dévorèrent les 7 vaches belles d'aspect et grasses. Alors Pharaon se réveilla. Il se rendormit et eut un second songe. Il faudrait voir les interprétations qu'on pourrait donner aujourd'hui, n'est-ce pas ? Voici que 7 épis montaient sur une même tige, gras et bon. Et voici que 7 épis maigres et brûlés par le vent d'est poussaient après eux. Et les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. À celui qui a, on donne, à celui qui n'a pas, on retire. Ici, c'est l'inverse. C'est très curieux, tu vois. C'est les vaches maigres qui mangent les vaches grasses, on comprend, ils ont bon appétit, n'est-ce pas? Donc, on prend les vaches grasses. C'est les épis maigres qui prennent les épis gras. Et c'est curieux, hein. Le faible qui prend le fort. Et le... Or, au matin, l'esprit troublé. Oui, alors le pharaon se réveilla, et voici que c'était un songe. Il est tellement plongé dedans qu'il croyait que c'est la réalité. Or, au matin, l'esprit troublé, il envoya appeler tous les magiciens d'Égypte et tous ses sages. Et Pharaon leur raconta le songe qu'il avait eu. Mais personne ne put l'interpréter à Pharaon. Alors le grand échanson parla à Pharaon en ces termes. « Je vais rappeler mes fautes aujourd'hui. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait mis en surveillance dans la maison du commandant des gardes, moi et le grand panetier. Nous eûmes un songe la même nuit, moi et lui. Nous eûmes un songe, chaque songe, nous eûmes un songe, chaque songe ayant sa signification. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du commandant des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous interpréta. Il interpréta le songe de chacun. Or, selon ce qu'il nous avait interprété, ainsi en fut-il. Moi, on me rétablit dans ma charge et lui, on le pendit. Pharaon envoya appeler Joseph. Vous voyez comme quoi il y a une espèce de lien entre tous ces... ses songes grâce aux interprétations bienheureuses de Joseph. Le pharaon envoya appeler Joseph. On le fit sortir en hâte du cachot. Il se rasa, changea de vêtements, une prise d'habit, et entra chez Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. » C'est comme ça que ça fait, on sort du cachot pour aller... auprès du pharaon, c'est très, très beau. J'ai eu un songe. Il n'y a personne pour l'interpréter. Mais moi, j'ai appris à ton sujet qu'il te suffit d'entendre un songe pour l'interpréter. Joseph répondit à Pharaon en ces termes, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui répondra ce qui est salutaire pour Pharaon. Pharaon parla à Joseph en ces termes. Dans mon songe, voici que je me tenais sur la rive du Nil, et voici que du Nil montaient sept vaches grasses de chair et bien faites, qui se mirent à paître dans les joncs. Et voici que sept autres vaches montaient après elles, grêles et très mal faites, minces de chair. Je n'en avais pas vu dans tout le pays d'Égypte de pareilles en laideur. Oui, ça s'est augmenté un tout petit peu après, ça grossit, c'est pas étonnant, c'est de l'ordre imaginatif. Alors, les vaches minces et laides dévorèrent les sept premières vaches, les grasses. Et bien qu'elles fussent entrées dans leurs panses, on ne s'aperçut pas qu'elles étaient entrées dans leurs panses. Leur aspect était aussi laid qu'au début. Ils ont beau manger, ça ne va pas, vous voyez. Ils ont dévoré l'autre, non, ils sont restés tout à fait les mêmes. Alors je me réveillai. Je vis encore dans mon songe que cet épi montait sur une même tige, plein et beau. Et voici que cet épi desséché et maigre, brûlé par le vent d'est, poussait après eux. Et les épis maigres, engloutir les sept beaux épis. J'ai dit cela au magicien, mais personne ne m'explique. Joseph dit au Pharaon, le songe de Pharaon est un. Dieu a annoncé à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années. Et les sept beaux épis sont sept années. C'était un seul songe. Les sept vaches minces et laides qui montaient après elles sont sept années. Et les sept épis vides, brûlés par le vent d'est, ce seront sept années de famine. C'est la parole que j'ai dite à Pharaon. Dieu a fait voir à Pharaon ce qu'il va faire. Voici venir sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Surgiront après elles sept années de famine. On oubliera toute l'abondance dans le pays d'Égypte et la famine consumera le pays. On ne connaîtra plus l'abondance dans le pays à cause de cette famine qui suivra, car elle sera très grave. Et si le songe a été répété par deux fois à Pharaon, c'est que la chose est bien décidée de la part de Dieu et que Dieu va se hâter de la faire. Et maintenant que Pharaon discerne un homme intelligent et sage et qu'il l'établit sur le pays d'Égypte, que Pharaon agisse, qu'il prépose des préposés sur le pays, et qu'il prélève le cinquième du pays d'Égypte lors des sept années d'abondance. Que ceux-là ramassent tous les vivres de ces bonnes années qui viennent, qu'ils entassent du froment sous l'autorité de Pharaon, des vivres dans les villes, et qu'ils les gardent. Ces vivres serviront de réserve pour le pays, en vue des sept années de famine qu'il y aura au pays d'Égypte. Et le pays ne sera pas supprimé par la famine. Le discours plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci en qui soit l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Après que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne d'intelligent et de sage comme toi. » C'est la sagesse de Pharaon qui est montrée hein, par le fait même. La sagesse et l'intelligence, c'est ça qu'on choisit. C'est celui qui est le plus intelligent, parce qu'il a la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu. Pharaon croit en Dieu. Après que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'est personne d'intelligent et de sage comme toi. C'est toi qui seras à la tête de ma maison. Tout mon peuple sera soumis à tes ordres. Par le trône seulement, je serai plus grand que toi. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te mets à la tête de tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de lin fin et lui mit au cou le collier d'or. Il y a une seconde prise d'habits, ça. Profession perpétuelle, hein, c'est... Il est bien établi. Il le fit monter sur le second de ses chars et on cria devant lui « Abrek ». Ainsi le met-il à la tête de tout le pays d'Égypte. Puis Pharaon dit à Joseph « Je suis Pharaon. Sans toi, nul ne lèvera la main ou le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Saphnat Panéat. Il lui donna pour femme Asnat, fille de Portiphéra, prête d'On. Vous voyez le mariage de Joseph comme il est différent de tous les autres. Hein. Ça, c'est très mystérieux. Parce que le mariage joue un rôle important, on l'a vu pour Abraham, Isaac et Jacob. Il fallait qu'ils se marient dans le pays d'où on sortait, pour être sûr. Hein. Parce que les pièces rapportées, on ne sait jamais. Hein. Et là, on voit très très bien. Et Abraham, avec son intelligence, voulait cela. Ici, c'est tout à fait différent. Joseph, il est séparé de tout, il est orphelin. Il est coupé de tout. Il est transplanté comme ça en Égypte. Dieu lui permet d'atteindre la confiance, le cœur du Pharaon, d'avoir toute la confiance du Pharaon quand il agit du mariage. On ne va pas lui dire de retourner chez les siens. Et le mariage représente justement comme un enracinement. Alors, c'est intéressant de voir que le Pharaon donne à Joseph un nouveau nom, comme Dieu a donné à Abraham un nouveau nom. Ici, c'est le Pharaon qui donne un nouveau nom. Il appelle Joseph du nom de Sefnath Panea. Donc, on passe du langage hébreu au langage égyptien. C'est toujours très important de voir l'influence de l'Égypte sur Israël. Et de voir ici, de fait, comment cet orphelin, il est coupé de tout. Il a été vraiment rejeté de ses frères. Il y a un lien avec le père. Il ne faut pas l'oublier. Il est lié très profondément avec son père. Les frères l'ont séparé par jalousie. Ils l'ont séparé. Et alors, le Pharaon devient pour lui un nouveau père. Changer son nom, ça c'est le signe de la paternité. Pharaon appela Joseph du nom de Sefnath Panea. Ces noms égyptiens, Dieu dit, il est vivant. Selon d'autres, l'homme qui sait les choses. C'est peut-être plutôt ça. Dieu dit, il est vivant. Selon d'autres, l'homme qui sait les choses. Asnath signifie celle qui appartient à la déesse Neith. Et Potiphéra, même nom que Putiphar et même sens. Alors, on prêtre don, c'est Héliopolis, au nord-est du Caire, centre du culte de Ra, le dieu soleil. Le dieu soleil. Donc, on voit cette alliance, curieuse. On met Joseph au cœur de toutes les traditions égyptiennes. Très curieux. Problème de l'œcuménisme, vous voyez ? Problème des alliances religieuses. C'est très intéressant, ça. On reverra ça avec Moïse, il ne faut pas l'oublier. Mais quand on dit qu'Israël est séparé de toute culture, ce n'est pas vrai. Il assume toutes les autres cultures. Et c'est ça qui est très curieux. Il n'est pas de tout. Selon la perspective de Dieu, c'est ça que Dieu fait. Il y a un rameau d'Israël qui est rejeté en Égypte. Et ce rameau d'Israël pousse en Égypte, dans Joseph. Donc Pharaon appela Joseph du nom de Sefnath-Panéa et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph partit pour le pays d'Égypte. Et Joseph était âgé de 30 ans quand il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Joseph partit de devant Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit à profusion. Il ramassa tous les vivres des 7 années où il y eut abondance au pays d'Égypte. Et il les mit dans les villes, mettant à l'intérieur de chaque ville les vivres de la campagne environnante. Joseph entassa le froment comme le sable de la mer, en très grande quantité, au point qu'il cessa de le nombrer, car c'était sans nombre. C'est très poétique, c'est extraordinaire. On voit très bien une tradition, une légende, qui a sûrement un fondement réel, mais on sent très bien que c'est couvert de légendes, n'est-ce pas ? C'est au fond, on montre Joseph le sauveur de l'Égypte, médiateur sauveur, grâce à la prophétie, grâce à l'intelligence et la sagesse. C'est le salut par l'intelligence et la sagesse. Avant qu'arrivât l'année de la famine, il naquit à Joseph deux fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph appela l'aîné du nom de Manassé. Vous voyez, Manassé, c'est donc un lien entre Israël et l'Égypte. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Il m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. L'oubli. L'oubli par la réussite, le succès, un succès prodigieux. Il est à la tête de toute l'Égypte. Et l'Égypte, ça représente un autre pouvoir que le petit peuple d'Israël, hein, qui était encore lié au... C'est une tribu. Tandis que c'est un empire. Il y a des plus riches. Il est à la tête. Et il appela le second du nom d'Éphraïm. Car, dit-il, Dieu m'a fait fructifier au pays de ma misère. Manassé et Éphraïm. Cette alliance, c'est prodigieux quand on essaie de comprendre un tout petit peu ça. Dieu permet cette coupure pour cette nouvelle miséricorde, cette nouvelle alliance. Quand furent achevées les 7 années où il y avait abondance au pays d'Égypte, les 7 années de famine commencèrent à arriver, selon ce qu'avait dit Joseph. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Alors, la fiche sur le pain, vous voyez bien, le pain permet de continuer de vivre. Le pain permet de ne pas tomber dans la famine. Puis tout le pays d'Égypte eut faim et le peuple, à grands cris, demanda du pain à Pharaon. Et Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez à Joseph, vous ferez ce qu'il vous dira. C'est ce que Bossuet reprend, tu vois, quand il dit, quand vous êtes dans une période de famine, allez à Joseph, vous ferez ce qu'il vous dira. C'est la chose magnifique, ça. Il s'agit d'aller à Joseph. Puis vous ferez tout ce qu'il vous dira. C'est très beau, hein? Parce que Marie dit ça par rapport à Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Et le pharaon le dit par rapport à Joseph. Il y a là quelque chose qui est important. Joseph, c'est le père nourricier. C'est celui qui est pour le messianisme temporel. C'est celui qui permet d'éviter les famines. C'est ça la maison de Saint-Joseph ici, hein. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour éviter les famines. C'est la maison de la surabondance. Allez à Joseph, vous ferez ce qu'il vous dira. Ce n'est pas pour rien que Saint-Joseph nous a conduits ici, que c'est la maison de Saint-Joseph. Vous comprenez ? Il y a quand même une signification profonde qu'on doit essayer de comprendre au milieu de la famine. Comme la famine s'étendait sur toute la surface du pays, Joseph ouvrit tous les dépôts de froment et vendit du grain aux Égyptiens. La famine sévit au pays d'Égypte, mais tous les pays venaient en Égypte pour acheter du grain à Joseph, car la famine sévissait dans toute la terre. Dans toute la terre. C'est évident, c'est la seule terre connue, donc c'était tout ce qui était autour de l'Égypte. Oui, c'est vraiment le sauveur universel, pas uniquement de l'Égypte, mais le sauveur universel. Il y a quelque chose de très très grand dans cette vision de Joseph. Évidemment, ça dépasse Saint Joseph, ça regarde aussi le Christ, c'est bien évident, mais ça regarde Joseph. Il y a les deux aspects. Alors, on va revenir à Jacob. Et donc, au fond, cette première partie de l'histoire de Joseph... Avec Joseph, tout lui réussit. Et il va jusqu'au pharaon. Donc, le pharaon, c'est, je dirais, c'est la puissance la plus grande de cette époque. Il faut regarder ça comme ça. C'est la civilisation, la culture la plus grande de l'époque. Et vraiment, ce qu'il y a de plus grand. Et Joseph devient l'homme de confiance, l'intendant. Le pharaon lui a mis tout pouvoir. La seule différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que moi j'ai mon trône. C'est-à-dire qu'il a l'autorité. Puisque le trône symbolise de l'autorité. Mais il a l'anneau. Donc il peut tout exécuter. Mais la seule différence, c'est que tout revient l'honneur au pharaon. Alors maintenant, seconde partie. Nouvelle relation, on va renouer les liens avec Jacob. On va renouer les liens avec les frères. Jacob, voyant qu'il y avait du grain à vendre en Égypte, dit à ses fils. Vous voyez, il y a eu le téléphone arabe là, qui montrait qu'en Égypte, on vendait du grain. On savait qu'il y avait quelque chose là d'important. On manquait. Jacob, voyant qu'il y avait du grain à vendre en Égypte. Ça s'apprend vite en temps de famine, vous savez. Qu'avez-vous à vous regarder? Puis il dit, voici, j'ai appris qu'il y a du grain à vendre en Égypte. Descendez-y, achetez-nous du grain de là-bas pour que nous vivions et ne mourions pas. Les frères de Joseph, au nombre de 10, descendirent pour acheter du froment d'Égypte. Quant à Benjamin, le frère de Joseph, Jacob ne l'envoya pas avec ses frères, car il se disait, il ne faut pas qu'il lui arrive malheur. Dans le fond de son cœur, vous voyez, hein, il n'a pas tellement confiance. Dans ses 10 enfants, il n'a confiance que dans le Benjamin. Les fils d'Israël arrivèrent donc pour acheter du grain. Ça, c'est un des passages les plus étonnants de toute la Genèse et même de toute l'Écriture. Je crois qu'il y a là un très grand secret. Les fils d'Israël arrivèrent donc pour acheter du grain au milieu de ceux qui arrivaient. Donc, ils sont perdus dans la foule, parce que du monde entier on vient. Les fils d'Israël arrivèrent donc pour acheter du grain au milieu de ceux qui arrivaient. Ils sont perdus dans la foule. Car c'était la famine au pays de Canaan. Or Joseph était le maître souverain du pays. C'est lui qui vendait le grain à tous les gens du pays. Les frères de Joseph arrivèrent donc et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Dieu a dû sourire hein, en voyant ça. C'est ça, c'est très net, on le voit très très bien. On le souligne, hein, c'est l'Esprit Saint qui nous dit ça. Dès que Joseph vit ses frères, il les reconnut. Mais il feignit de leur être étranger. Il leur parla durement. Il leur dit, d'où venez-vous ? Et dire du pays de Canaan pour acheter des vivres. Ainsi Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il avait changé d'habit. Puis il avait pris les mœurs du pharaon. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour voir les points faibles du pays que vous êtes venus. Et lui dire, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Nous sommes tous les filles d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit, non, c'est pour voir les points faibles du pays que vous êtes venus. Et dire, tes serviteurs sont 12 frères. Nous sommes fils d'un même homme au pays de Canaan. Le plus jeune est maintenant avec notre père. Il y en a un qui n'est plus. Joseph leur dit, c'est bien ce que je vous disais. Vous êtes des espions. Voici que l'épreuve que vous... Voici, voici l'épreuve que vous allez subir. Par la vie du Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici que votre jeune frère n'y vienne. Envoyez l'un de vous prendre votre frère pour vous rester prisonnier. Ainsi vos dires seront éprouvés. On saura si la vérité est avec vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et les retint en surveillance pendant 3 jours. C'est extraordinaire. Vous voyez, Joseph qui sonde les reins et les cœurs, hein, de ses propres frères qui ont menti. Il veut leur faire expier. Est-ce qu'ils ont changé ? Il veut leur faire expier. Est-ce qu'ils ont changé ? Est-ce qu'ils se sont convertis ? Ce sont des espions. Ils ont trahi. Le 3e jour, Joseph leur dit : faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste prisonnier dans la maison où vous êtes en surveillance. Et vous autres, allez, emmenez le grain pour préserver vos familles de la faim. Et votre plus jeune frère, vous me l'amènerez. Alors vos dires se trouveront vérifiés et vous ne mourrez pas. Firent ainsi. Ils se dirent l'un à l'autre : hélas, nous sommes coupables à l'égard de notre frère. Vous voyez comme la punition porte ses fruits. Hein, ils avaient complètement oublié qu'ils étaient coupables. Ils n'avaient jamais avoué leur faute. Nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce et nous n'avons pas écouté. Voilà pourquoi nous est venue cette détresse. Et là, tout le mystère de la réconciliation, vous voyez, qui est sous-jacent là. Parce que c'est quand même la réconciliation de celui qui a subi la détresse à cause de ses frères, qui a été mis dans le puits et vendu. Et Joseph veut, avant la réconciliation, sonder leur cœur pour voir s'ils reconnaissent leur faute. Première chose pour la réconciliation, c'est de reconnaître sa faute. Et la lui oublier. Et Joseph les met dans la même situation pour qu'il se rappelle. Ruben leur répondit : ne vous ai-je pas dit, ne péchez pas contre l'enfant ? Mais vous n'avez pas écouté. Et voici que de son sang, il est demandé compte. Ruben, c'est la voix de la conscience, puisque c'est l'aîné. Et eux ne savaient pas que Joseph comprenait, car il y avait entre eux l'interprète. Joseph s'écarta d'eux et pleura. Puis il revint vers eux et leur parla. Il prit d'entre eux Siméon et le fit lier sous leurs yeux. Ah, il va loin, hein, il va aller jusqu'au bout. Alors, on voit très bien, il parlait hébreu entre eux, pensant que Joseph, égyptien, ne comprenait pas. Alors, ça, c'est très très beau pour voir comment Dieu sonde les reins et les cœurs. Hein. Comme image merveilleuse de voir comment il sait tout. C'est Joseph. Joseph préfigure Jésus. Grande préfiguration de Jésus, c'est bien évident. C'est une très belle préfiguration de Jésus, plus encore que de Saint Joseph. Mais c'est aussi vrai de Saint Joseph. Hein. Il y a quand même quelque chose qui est très très curieux. Joseph et Jésus. Mais évidemment, ici, c'est la préfiguration. La réconciliation qui doit se faire entre Joseph et ses frères aînés. Et vous voyez le rôle de Ruben, hein, ce qui reste vrai parmi les 10. Il y a quelque chose qui reste vrai, c'est Ruben. Les grâces de Dieu sont sans repentance. Il y a quelque chose qui reste vrai. Et c'est le cœur de Ruben. Et c'est lui qui les remet devant la vérité. Puis Joseph ordonna de remplir leur bagage de froment, de remettre l'argent de chacun dans son sac et de leur donner des provisions pour toute la route. On fit ainsi pour eux. Ils chargèrent leurs grains sur leur âne. Ils s'en allèrent de là. Mais lorsque l'un d'eux ouvrit son sac à blé pour donner du fourrage à son âne au campement de nuit, il vit son argent qui était à l'entrée de son sac de blé. Il dit à son frère, « On a remis mon argent, mais oui, le voici dans mon sac à blé. » Alors le cœur leur manqua. Et se dire l'un à l'autre, effrayés, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait là ?» Arrivés auprès de Jacob, leur père, au pays de Canaan, ils l'informèrent de tout ce qui leur était arrivé. « L'homme qui est le maître du pays, dirent-ils, nous a parlé durement et nous a pris pour des gens venus espionner le pays. Nous lui avons dit, « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils d'un même père. Il y en a un qui n'est plus, et le plus jeune est maintenant avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le maître du pays nous a dit, « À ceci je saurai que vous êtes sincères. Laissez près de moi l'un de vos frères. Prenez de quoi préservez vos familles de la famine et allez. Mais amenez-moi votre plus jeune frère, ainsi je saurai que vous n'êtes pas des espions et que vous êtes sincères. Je vous redonnerai votre frère et vous pourrez parcourir le pays. » Or, comme ils vidaient leurs sacs, voici que chacun avait dans son sac sa bourse d'argent. Et quand ils virent, eux et leur père, leur bourse d'argent, ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous voulez prendre Benjamin. C'est sur moi que tout retombe. » Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils si je ne le fais pas revenir vers toi. Confie-le-moi et moi je te le ramènerai. » Jacob dit, « Mon fils ne descendra pas avec vous car son frère est mort. Il reste seul. S'il lui arrivait malheur dans le voyage que vous allez entreprendre, vous ferez descendre dans l'affliction mes cheveux blancs chez Sheol. » C'est très très fort, voyez, ce passage, hein, parce que la souffrance nous fait sonder le cœur de Jacob. C'est toujours au moment de la souffrance et de la souffrance extrême que certains secrets se disent. Pour Jacob, il n'y en a que deux, Joseph et le Benjamin. Il n'y en a que deux. Parce que ce sont les deux fils de Rachel. Et tout Tous les autres, oui, sont ses enfants, mais il n'y en a que deux qui comptent, Joseph et Benjamin. Mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il reste seul. C'est net. Les autres, ça compte pas. Il dit ça devant Ruben. C'est devant la souffrance, devant le poids de la souffrance, il y a des secrets qui ne peuvent se dire que là. Ils se disent là. Et s'il lui arrivait malheur dans le voyage que vous allez entreprendre, vous ferez descendre dans l'affliction mes cheveux blancs au Sheol. Moi aussi je mourrai. Parce que je n'en ai plus qu'un. Le Benjamin. Vous voyez que c'est très étonnant cette scène, hein, parce que c'est d'une force étonnante de voir la présence dans le cœur de Jacob de la mort de son fils, du moins de celui qui croit être mort. Vous voyez la différence avec les frères, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Les frères, il a fallu mettre les points sur les i pour que ils comprennent. Il a fallu que Dieu les mène au même châtiment, à la même détresse. Alors à ce moment-là, ils ont compris. Jacob, lui, le père, c'est toujours présent en acte. La souffrance est toujours la même, parce qu'il l'aime. Alors la séparation reste toujours la même. Et tout l'amour qu'il a pour Joseph se porte sur le Benjamin. C'est du même amour, et donc il n'y a plus que lui. Si vous le prenez, alors je meurs de tristesse. À quoi ça sert d'avoir du froment? Il y a une mort plus terrible, c'est la mort de l'âme. Et c'est ça qu'il nous montre. Et la mort la plus terrible, c'est la mort de l'âme. Et on meurt dans la tristesse. C'est une mort qui est la mort la plus terrible. C'est poignant pour voir le cœur de Jacob, hein, sonder le cœur de Jacob. Et ça, c'est la souffrance. C'est l'imminence de la séparation à l'égard de Joseph, à l'égard du Benjamin. Cependant, la famine était grave dans le pays. Lordons qu'ils eurent achevé de manger le grain qu'ils avaient amené d'Égypte, leur père leur dit « Retournez nous en acheter quelques vivres. » C'est toujours le père qui dit ça, vous voyez. Hein, l'autorité de Jacob demeure. Hein. « Retournez-nous acheter quelques vivres. » Judas lui dit « Cet homme nous a solennellement averti. Vous ne paraîtrez pas devant moi, a-t-il dit, si votre frère n'est pas avec vous. » C'est Judas qui dit ça. Vous voyez, le rôle de chacun, c'est très curieux. À travers la souffrance, on voit, c'est plus les 10. Hein. Il y a un caractère particulier qui se montre. Il y a Ruben, Judas. « Si tu laisses partir notre frère avec nous, nous descendrons t'acheter des vivres. Mais si tu ne le laisses pas partir, nous ne descendrons pas. Car l'homme nous a dit, vous ne paraîtrez pas devant moi si votre frère n'est pas avec vous. » Israël dit, « Pourquoi m'avez-vous fait ce mal d'apprendre à cet homme que vous aviez encore un frère? » Ça, c'est très beau. Pourquoi m'avez-vous fait ce mal? Il y a un secret. Et ne veut pas le livrer. Il devait comprendre la tendresse du père à l'égard de Benjamin. Et c'était le secret de famille. Ils ont livré le secret de famille. « Pourquoi m'avez-vous fait ce mal d'apprendre à cet homme que vous aviez encore un frère. Il dit, c'est que l'homme nous a beaucoup questionnés sur nous, sur notre parenté. Il a dit, votre père vit-il encore? Est-ce que vous avez un frère? Et nous l'avons renseigné conformément à ses paroles. Pouvions-nous savoir qu'il était? Pouvions-nous savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère? Judas dit à Israël, son père, laisse partir le garçon avec moi. Debout, allons-nous-en. Ainsi nous vivrons et nous ne mourrons pas. Nous, toi et nos enfants. C'est moi qui réponds pour lui. C'est à moi que tu en demanderas compte. Donc, vous voyez le rôle de Judas. C'est très important ici. Il passe devant Ruben. Hein? Parce que Ruben, d'une certaine manière, était prêt à le faire. Et Judas le fait ici. Si je ne le fais pas revenir vers toi et ne le remets pas en ta présence, je serai coupable envers toi tous les jours. Si nous ne nous étions pas tant attardés, nous serions déjà revenus deux fois. Il est très pratique, Judas. Il insiste d'une façon étonnante, mais en même temps, il veut donner cette garantie absolue. Israël, leur père, leur dit, s'il en est ainsi, eh bien, faites ceci. Prenez dans vos bagages les meilleurs produits du pays que vous ferez descendre comme présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, de la gomme adragante, du ladanum, des pistaches, des amandes. Emportez de l'argent au double et rapportez avec vous l'argent qui a été remis à l'entrée de vos sacs à blé. Peut-être est-ce une méprise. Prenez votre frère et en route. Retournez auprès de cet homme et que El Shaddai vous donne de trouver miséricorde auprès de cet homme pour qu'il vous rende votre autre frère et Benjamin. Pour moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Un peu de fatalisme, hein? Ou un abandon total à la Providence. Il faut que ça aille jusque-là. Il faut que Jacob soit appauvri de tout ce qu'il aime. Et radicalement appauvri de tout ce qu'il aime. L'abandon peut prendre une physionomie de fatalisme, mais ça peut être un abandon total à la Providence de Dieu. Il s'en remet entièrement. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il s'en remet entièrement à ce que représente le point de vue de la grandeur de Dieu. Et voyez qu'il fait appel à la miséricorde. C'est bien la première fois, je crois, qu'intervient le point de vue de la miséricorde. La miséricorde par rapport à un homme. Alors on pourrait dire que c'est déjà arrivé puisque Jacob demande le pardon à Ésaü. Alors d'une certaine manière, il réclame la miséricorde. Mais ça s'est fait tout à fait différemment. Tandis qu'ici, c'est explicite. C'est explicite. Les hommes prirent ce présent, emportèrent le double d'argent et emmenant Benjamin, ils se mirent en route et descendirent en Égypte et se tinrent devant Joseph. Quand Joseph vit avec eux Benjamin, il dit au chef de sa maison, « Emmène ces hommes à la maison, égorge une bête et apprête-la. car ces hommes mangeront avec moi à midi. » L'homme fit selon ce qu'avait dit Joseph, et il emmena les hommes à la maison de Joseph. Vous voyez, la présence du Benjamin. Benjamin est pur. Benjamin est le seul innocent du crime. Et alors, Joseph, à l'égard du Benjamin, redevient le frère des autres. Alors qu'avant, il fallait purifier leur cœur. Les hommes eurent peur quand on les emmena à la maison de Joseph. Ils dirent, c'est à cause de l'argent qui a été remis la première fois dans nos sacs à blé qu'on nous emmène. On va se ruer sur nous, tomber sur nous et nous prendre pour esclaves avec nos ânes. C'est encore plus important. Hein. Et ils s'avancèrent vers le chef de la maison de Joseph. Ils lui parlèrent à l'entrée de la maison. « De grâce, mon Seigneur, dirent-ils, nous étions descendus une première fois pour acheter des vivres. Or, quand nous sommes arrivés au campement de nuit et que nous avons ouvert nos sacs à blé, voilà que l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre même poids d'argent. Et nous l'avons rapporté avec nous. Et nous avons descendu avec nous une autre somme d'argent pour acheter des vivres. Nous ne sommes pas qui, nous ne savons pas qui a mis notre argent dans nos sacs à blé. Mais il dit, soyez en paix, ne craignez rien. C'est votre Dieu et le Dieu de votre Père qui a placé pour vous un trésor dans vos sacs à blé. Votre argent m'était parvenu. Il la ramena Siméon. L'homme les emmena donc à la maison de Joseph. Il donna de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds. Puis il donna du fourrage pour leur âne. Vous respectez la hiérarchie, non ? Ils disposèrent le présent en attendant l'arrivée de Joseph pour midi, car ils avaient appris qu'ils prendraient là leur repas. Lorsque Joseph entra dans la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient avec eux et se prosternèrent à terre devant lui. Il les salua, puis il dit, « Votre père, le vieillard dont vous avez parlé, se porte-t-il bien ? Vit-il encore ? » Ils dirent, « Ton serviteur, notre père, se porte bien. Il vit encore. » Alors, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Levant les yeux, Joseph vit Benjamin, son frère, le fils de sa mère. Il dit, « Est-ce là votre plus jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Il dit, « Dieu te fasse grâce, mon fils. » Alors, en toute hâte, car ses entrailles s'étaient émues à cause de son frère, il avait envie de pleurer. Joseph entra dans la chambre et là, il pleura. Puis, s'étant lavé le visage, il sortit. Et se contenant, il dit, « Servez le repas. » On le servit à part, et eux à part. À part aussi les Égyptiens qui mangeaient avec lui. Car les Égyptiens ne peuvent prendre leur repas avec les Hébreux. C'est une abomination pour les Égyptiens. Ils s'assirent devant lui, le premier-né selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon son jeune âge. Et ces hommes se regardaient l'un l'autre avec stupeur. Joseph préleva pour eux des portions de ce qui était devant lui. Et la portion de Benjamin surpassait 5 fois leur portion à tous. Ils burent et s'enivrèrent avec lui. Et cette rencontre fraternelle, tout est fixé sur le Benjamin. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout est pour montrer que c'est le Benjamin, c'est grâce au Benjamin que tout se réalise. Joseph donna cet ordre au chef de maison, de sa maison. Remplit les sacs à blé de ses hommes d'autant de vivres qu'ils en pourront porter et met l'argent de chacun à l'entrée de son sac à blé. Et ma coupe, la coupe d'argent, tu la mettras à l'entrée du sac de blé, du sac à blé du plus jeune, avec l'argent de son grain. Et le chef de sa maison agit selon la parole que Joseph avait dite. Dès que brilla le matin, on envoya les hommes avec leurs ânes. Ils sortaient de la ville et n'en étaient pas loin. Lorsque Joseph dit au chef de sa maison, « Debout, cours après ces hommes !» Et quand tu les auras rejoints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? Et pourquoi m'avez-vous dérobé la coupe d'argent ? N'est-ce pas celle dans laquelle boit mon maître et avec laquelle il pratique la divination ? Vous avez mal agi en faisant cela. » Le chef de sa maison les rejoint et leur dit ces paroles. Il leur dit, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il en ces termes ? Loin de tes serviteurs, loin de tes serviteurs de leur faire pareille chose. » Vois l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs à blé. Nous te l'avons rapporté au pays de Canaan. Comment donc aurons-nous volé dans la maison de ton maître de l'argent et de l'or ? Celui de tes serviteurs chez qui on trouvera la coupe, qu'il meure. Et nous-mêmes, nous deviendrons les esclaves de mon Seigneur. Le chef de la maison dit que dès maintenant, il en soit selon vos paroles. Celui chez qui on trouvera la coupe sera mon esclave, et vous serez quitte. Ils se hâtèrent, chacun de descendre à terre son sac à blé, et chacun ouvrit le sien. Il fouilla en commençant par l'aîné et en achevant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac à blé du Benjamin. Alors ils déchirèrent leurs vêtements et chacun ayant chargé son âne, ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères entrèrent dans la maison de Joseph qui s'y trouvait encore. Ils tombèrent à terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle est cette action que vous avez commise ? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi est capable de deviner ?» Judas dit, « Que dirions-nous à mon Seigneur ? Comment parler et comment nous justifier ? C'est Dieu qui a trouvé la faute de ses serviteurs. Nous voici les esclaves de mon Seigneur. Aussi bien nous que celui aux mains duquel on a trouvé la coupe. » Joseph dit, « Loin de moi d'agir ainsi. Cet homme aux mains duquel on a trouvé la coupe, qui sera mon esclave, pour vous monter sain et sauf auprès de votre père. » Alors Judas s'avança vers lui et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse dire une parole aux oreilles de son Seigneur, sans que ta colère s'enfle contre ton serviteur, car tu es l'égal du Pharaon. » Mon Seigneur a questionné ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ? » Nous avons dit à mon Seigneur, « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Le frère de celui-ci est mort. Il reste seul de sa mère. Son père l'aime. » Tu as dit alors à ses serviteurs, « Faites-le descendre vers moi et que je pose mes yeux sur lui. » Nous avons dit à mon Seigneur, « Le garçon ne peut pas quitter son père. S'il quitte son père, celui-là mourra. » Mais tu as dit à tes serviteurs, « Si votre plus jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne paraîtrez plus devant moi. » Lorsque donc que nous sommes montés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et quand mon père a dit, « Retournez nous acheter quelques vivres », nous avons dit, « Nous ne pouvons descendre. Si notre plus jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons paraître devant cet homme sans que notre plus jeune frère soit avec nous. Alors ton serviteur, mon père, nous a dit, « Vous savez que ma femme m'a enfanté de fils. L'un est parti d'auprès de moi. » Et j'ai dit, « Certainement, il a été mis en pièces. Et je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. » Si vous prenez encore celui-ci d'auprès de moi et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre dans l'infortune